Et les enfants, on ne peut plus dire le mot nain, sont, mais à l'époque il le dit, sont plus petits que la moyenne, mais plus grands que leurs parents. Et il appelle ça une régression vers la moyenne. Et cette régression vers la moyenne, vous le voyez dans le schéma, on peut la réduire en fonction. Ça s'appelle une régression linéaire. Et c'est ainsi que vous pouvez arriver d'un nuage qui représente les différentes, la population, vers une courbe qui est une courbe fonctionnelle. Alors maintenant, et rassurez-vous, j'en ai fini, vous prenez le nuage des décisions judiciaires et vous opérez une régression linéaire et ainsi vous avez votre fonction algorithmique par laquelle vous pouvez trancher tout cas futur. C'est comme ça que ça marche. Donc, vous voyez, c'est pas du tout, c'est pas de l'intelligence artificielle, un truc de fou, il y a des réseaux neuronaux, c'est pas du tout. Ce sont des techniques statistiques qui ont été découvertes en 1850 et qui ont été découvertes pour les appliquer à de la sociologie normative, c'est-à-dire déjà pour gouverner les hommes, et qui ont été ensuite très critiquées, décriées, etc., pour tout un tas de raisons que vous connaissez ou que vous imaginez. Alors, cette histoire de régression linéaire, l'argument va plus loin que de dire, en fait, il est normal que nous ayons des décisions judiciaires bruyantes, parce qu'on cherche la bonne solution, que les circonstances d'un cas ne sont pas les circonstances des autres, et que c'est tout le jeu du débat judiciaire et la construction de la jurisprudence qui va permettre finalement de trouver des critères qui sont toujours en évolution pour. Ça, on a compris que ce n'est pas le problème de l'algorithme. Mais on peut même aller plus loin, parce qu'ici, on voit que cette fonction ne correspond pas à la réalité des choses. Elle est là juste pour que le mathématicien ou le statisticien ait une petite idée. Tiens, mais si on a telle donnée en abscisse, on va avoir plus ou moins telle réponse en ordonnée. C'est ça que ça veut dire, c'est une approximation. Mais c'est sur base de cette approximation, qui ne correspond en fait à aucune décision de jurisprudence, qu'on va décider des cas futurs. Et en plus, il y a un danger supérieur, c'est que on a en fait cette fonction définie une règle générale. Alors, la jurisprudence n'a pas vocation à définir des règles générales. Et rien ne dit que cette règle générale déterminée par la fonction soit conforme à la loi. En général, elle ne le sera pas. Donc en fait, elle n'est ni conforme au précédent, ni conforme à la loi. Elle établit une fonction. Alors évidemment, troublez vos os pour qu'elles paraissent profondes. Ici, il n'y a que deux éléments à prendre en compte. Il n'y a que deux paramètres. Je vous ai dit qu'un algorithme simple en prend 137. Donc 137, vous voyez comment je peux pas représenter ça. Même avec le meilleur des ordinateurs, c'est impossible pour nous à saisir. D'ailleurs, c'est impossible pour l'esprit humain. On estime en général qu'on peut comprendre, considérer en même temps, pas plus de 7 paramètres. Donc nous, on n'y comprend rien. Donc c'est terriblement riche quand il y a des milliers de paramètres. Sauf que ça n'entraîne pas de cause. Enfin, sauf que vous pourriez avoir des millions de paramètres, ça n'empêche pas que le processus lui-même est profondément problématique sur le plan du droit. Je termine alors, puisque mon temps est écoulé, rapidement par le dernier point qui est l'inégalité généralisée d'un droit algorithmique qui repose sur des fonctions. Donc, vous avez compris, même la règle générale, l'algorithmique fabrique au départ d'un nuage de points une courbe de fonctions, qui est, disons, bien plus complexe qu'une fonction linéaire de type f de x égale y, telle qu'on l'a représentée chez Galton. Je prends comme fonction une courbe de Gauss. Il n'y a pas de raison qu'une loi équivale à une courbe de Gauss. Mais enfin, disons que je l'ai fait pour la simplicité. Alors ici, le problème du schéma, il m'arrange pour certains aspects, mais pour d'autres aspects, il montre plutôt l'intégrale que la courbe. Mais bon, peu importe qu'il ne montre pas la fonction, qu'il montre l'intégrale. Ici, c'est la même chose pour nous. Donc on voit que si vous avez une application, que si vous avez une admettons que cette courbe de Gauss énonce une règle générale, on va avoir, selon les individus, selon la distribution des individus, ceux-ci vont se voir appliquer des traitements en fait différents. Alors ça correspond, je ne rentre pas dans un développement que de toute façon tout le monde connaît, on sait qu'on a eu un débat sur l'égalité, qu'au départ l'idée c'est que c'est la même règle pour tout le monde et qu'ensuite effectivement on peut faire des catégories différentes et que les individus selon leur montant de revenus ne paieront pas le même taux d'imposition par exemple. Là vous avez, si vous voulez, les petites courbes, disons les couleurs violettes et vertes. Hein, vous pouvez faire des catégories entre les différents sujets. Mais ce que vous avez dans l'algorithmique, c'est que vous poussez la logique jusqu'au bout et qu'en réalité, imaginez-vous que cette fonction soit donc la règle générale, eh bien, chaque individu va se voir traiter de manière spécifique en fonction des paramètres qui sont les siens. Et néanmoins, vous pouvez lire ça dans la littérature, hein, on vous dira que ça respecte parfaitement l'égalité parce que chacun est traité de manière appropriée par rapport à la même règle générale expliquée, exprimée par la fonction en question. Donc vous voyez qu'il y a dans ce système-là, vous avez l'idée que la même règle s'applique à tous n'a plus du tout le même sens. Hein. C'est plus du tout le fait que vous ayez le même traitement pour chacun. Vous avez un traitement qui est au contraire différent pour chacun, mais qui obéit à la même fonction mathématique générale. Donc là, il y a un gros problème, me semble-t-il, de philosophie du droit et de philosophie politique. Voilà, c'est très loin d'épuiser, évidemment, toutes les questions que pose la mise en place de ces algorithmes, mais vous voyez déjà que ces trois questions-là, me semble-t-il, permettent en tout cas d'ouvrir une discussion sur le fait que la logique juridique telle que nous la connaissons, et qui est très imparfaite, ne sortira pas intacte de l'algorithmisation. Je vous remercie.